Voilà, donc Laurence Desjardins, je suis médecin généraliste, hein, fraîchement diplômée, ça se voit pas. Voilà, et en fait, j'ai accepté l'invitation. Normalement, on essaye de ne pas sortir de notre, petite région sud-est parce que, voilà, on a 3 enfants, une église, un cabinet médical, etc. Et donc, on ne veut pas tomber en burn-out. Donc, normalement, on limite les déplacements. Mais comme c'était le sujet de ma thèse, que Daniel a un lien affectif et historique, enfin de son histoire en tout cas, avec le GBU, on a exceptionnellement accepté de monter jusqu'à Paris dans le froid. Voilà, et pour partager. Et donc, c'était effectivement le sujet de ma thèse. Et plus précisément, en fait, la question que j'avais posée, je l'ai dit à quelques-uns, c'est est-ce que la loi de Moïse est porteuse de mesures de prévention sanitaire? Et on m'avait demandé de réduire un petit peu ce sujet qui semblait très vaste. Et donc la question, c'était plus précisément, est-ce qu'il y a dans la loi de Moïse des mesures de prévention des pathologies liées au manque de repos, au stress et donc au final au burn-out? C'était... alors, on va parler du burn-out, ne vous inquiétez pas, mais j'avais à cœur en introduction quand même de dire que c'était un peu un défi quand même de prendre ce genre de sujet. Au départ, j'avais pris un autre sujet purement scientifique et pour diverses raisons, j'ai changé. Et Daniel me rappelait tout à l'heure que un des sujets d'étude du GBU ces derniers temps, ça avait été la... Est-ce qu'on est des chrétiens cohérents? Et Colette avait relevé tout à l'heure aussi le fait que, voilà, on peut être d'un côté dans son travail ou ses études, et puis de l'autre côté dans sa foi chrétienne. Bon, moi, je me suis convertie, j'étais adolescente, et donc peut-être aussi à cause de mon tempérament, j'étais plutôt genre, waouh, c'est merveilleux ce que j'ai trouvé, il faut le dire à tout le monde, donc je vais faire un métier où je vais pouvoir parler de ma foi. Donc, ça ne me posait pas vraiment de problème de prendre ce genre de thème pour ma thèse. Et j'ai toujours aimé témoigner de ma foi dans mon travail. Et ce que je voulais un petit peu aussi vous dire, pour encourager les déjà professionnels ou futurs professionnels, c'est que... C'est vrai que dans notre société, on nous dit attention, dans les lieux publics, vous ne devez pas parler ni de foi, ni de politique, ni de philosophie, ni etc. Et que c'est quelque chose qui est assez pesant. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit, c'est Georges, hein, ça, ce matin. C'est que quand on a des demandes contradictoires, c'est un facteur de stress réel. Et pour moi, c'était une réelle contradiction de porter la lumière et de me dire, mais là, et qu'on me dise, tu la mets sous le boisseau, ta lumière. Et il y avait deux demandes, il y a 2 mètres, quoi. Il y a le Seigneur qui me dit, porte la lumière, et puis il y a le monde qui me dit, tais-toi, cache-la. C'est la sphère privée, t'en parles pas. Donc bon, avec l'aide de Dieu, hein, il n'y a aucune gloire dans ce que je raconte, c'est vraiment pour vous encourager. Il y a d'autres choses de ma vie qui n'étaient pas forcément optimales, mais voilà, dans ce domaine, je voulais vraiment répondre à l'appel du maître et témoigner. Et je ne me suis pas gênée, je dirais, dans le sens où je l'ai fait avec j'espère, hein, une certaine forme de sagesse. Hein. Je ne distribuais pas des traités dans toutes les chambres. Voilà. Mais quand quelqu'un était devant moi dans la détresse, où je sentais intérieurement que le Seigneur me disait « Celui-là ou celle-là, je te demande de lui parler », je l'ai fait. Et en sachant parfois que j'ai pris des risques, notamment, je voulais vous raconter ce petit témoignage parce que je crois qu'il est parlant pour ceux qui se posent ce genre de questions. C'était une chambre double, donc il y avait un autre patient dans la chambre et il y a un homme qui était juif, qui avait une maladie cardiaque, où il savait qu'il pouvait mourir à tout moment et qui était fou d'angoisse, vraiment fou d'angoisse. Donc on parlait souvent de cette angoisse, de la mort. Et un jour, avant que je rentre dans la chambre, j'avais cette conviction qu'il fallait que j'aille plus loin avec lui. Et donc, j'ai parlé de la foi, de l'au-delà, etc. Enfin, là, je lui ai témoigné. Et il était très, très ouvert. Et à un moment, et donc, il y a le voisin qui captait tout. Et puis, je m'apprête à le quitter parce que le retourner. Et je le vois qui fond en larmes. Et là, j'ai eu cette conviction, prie avec lui. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, t'es sûr? Et je suis retournée, je lui ai proposé. Et je lui ai dit, mais bon, vous avez compris que moi, je crois en Jésus, donc je prie au nom de Jésus. Il m'a dit, prie au nom de Jésus. Donc j'ai prié avec lui. Et le voisin. Je me disais. Et en plus, cet homme avait été interné dans les camps de concentration à Buchenwald. Donc, bien sûr, j'ai pensé au témoignage de Corrie ten Boom, qui a aussi été dans ce camp. Je lui en ai parlé. Il m'a dit, donnez-moi son livre. Et je terminais mon stage. Donc, j'ai dit, je reviendrai vous l'amener exprès. Et quand je suis revenue pour amener le livre, parce que je suis revenue le week-end, sa femme était là. Elle m'a passé un savon. Et un savon. Et elle m'a dit, mais vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je peux vous poser des problèmes, je peux vous dénoncer. Et j'ai dit, je sais que vous pouvez le faire. Et je l'ai fait en connaissance de cause et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et je ne dis pas que si on m'avait viré de mes études, qu'on m'avait empêché de les terminer, ça aurait été de gaieté de cœur. Mais j'étais en paix. Et quand on parlait de burn-out et de double injonction, hein, pour moi, j'étais libre, j'étais franchement libre. Et ça ne m'a pas stressée, ça ne m'a pas empêchée de dormir. D'ailleurs, elle a quand même gardé le bouquin, la dame en question, de Corrie ten Boom. Elle était très colère, mais elle l'a gardé. Et j'espère qu'ils auront été bénis. Voilà. Donc, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il faut prêcher. Ce n'est pas un devoir. Vous n'êtes pas obligé, on en a parlé, de faire une thèse sur la Bible. Ce n'est pas la question, mais c'est répondre à l'injonction du maître, quoi. Hein. Et il n'y en a qu'une. On ne peut pas servir Dieu et maman. J'ai bien aimé, j'ai regretté que tu puisses pas, que tu aies dû un peu accélérer la fin de ton exposé parce que c'était vraiment très, très juste. Et voilà. Une des manières, là je saute beaucoup d'étapes, mais une des manières, je pense, d'éviter le burn-out pour nous chrétiens, c'est de répondre à l'appel du maître. C'est pas de se protéger, de dire est-ce que là j'en fais pas trop, j'en fais trop, machin. C'est. Je réponds à l'appel du maître. Je crois que Daniel a l'intention d'y revenir, donc je ne développerai pas plus. Mais c'est fondamental. Et pour nous, c'est doublement fondamental, puisqu'on est appelé à témoigner de cette liberté que Dieu nous a donnée. Et tu disais aussi très justement qu'il y a une perte de repères dans notre monde. Et si nous, on connaît ces repères et qu'on se tait, je veux dire. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est trop dommage, quoi. Et c'est reçu. Franchement, c'est reçu. J'ai vu des gens en fin de vie, des gens avant d'aller au bloc opératoire, des gens qui étaient dans des... Mais ils boivent. Et il y en a qui m'ont dit, il y en a une, elle m'a dit, ça m'intéresse pas, votre truc. Hein. Très bien. Elle savait qu'elle avait un cancer, qu'elle allait mourir. J'ai pas insisté. Voilà, on respecte effectivement la liberté des gens, mais c'est très, très rare. Vraiment, en général, il y a une soif, et quand ils sentent qu'on est sûr de ce qu'on vit, qu'on est fort dans ce qu'on vit, mais c'est extraordinaire, quoi. Voilà, donc on va quand même entrer un peu plus concrètement dans le sujet. D'étudier, alors moi je suis moins, tu as fait un exposé absolument magnifique, je me sens ouf. Je vais plus aborder l'aspect hygiène de vie. La psychologie, c'est pas trop mon domaine, hein. Mais je pense que la Bible a des choses à nous dire là-dessus. Et j'en étais la première surprise, hein. Parce que quand j'ai posé la question de la loi, au départ, je pensais la loi du Sinaï. Mais quand on dit loi de Moïse, en réalité, on parle de la Torah. Enfin, il y a au sens large, quand vous dites à un juif la loi de Moïse, il pense Torah. C'est-à-dire de la Genèse au Deutéronome. Et donc, j'ai commencé par la Genèse. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'avant la chute, avant la séparation, avant que l'homme se sépare de Dieu, Dieu avait déjà donné, entre guillemets, des lois. Et c'est en fait ces lois que j'ai appelées créationnelles, d'avant la chute, qui sont pour les plus parlantes et qui, je pense, ont vraiment des choses à nous apprendre. Donc, j'étais pas là au début de ton cours, mais tu m'as dit un petit peu que tu avais parlé donc des effets des hormones du stress et du cortisol en particulier, hein, qui est donc sécrété de façon chronique jusqu'à épuisement, où là il y a une chute. Et donc, ce cortisol entraîne une dysrégulation hein, du système immunitaire, des facteurs de l'inflammation, même de l'expression de certains gènes et du métabolisme. Et donc, les décompensations. Pour le coup, pas psychologique, mais somatique, lié au stress hein, du corps, auront toujours lieu au niveau du maillon le plus faible de l'organisme. Et c'est à ces dysrégulations qu'on va s'intéresser. Donc avant, je vais vous donner quand même une petite définition, parce que je crois que je dois faire l'aspect clinique du burn-out. Il y a 50 000 définitions, en fait, parce que en réalité, c'est un stress chronique, ce qui est spécifique. Qui est le même que pour un grand brûlé, que pour un enfant en institution, en orphelinat. C'est exactement, le stress est un syndrome non spécifique. Hein. Ce qui caractérise le burn-out, c'est que c'est un syndrome de stress chronique professionnel. Et les causes. Et donc, il se définit difficilement, puisqu'il inclut plein de choses. Moi, j'ai retenu une définition que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle reprend toutes les caractéristiques, je trouve, du burn-out. C'est une détresse morale où la souffrance physique et psychologique est expérimentée lorsque les contraintes externes, c'est-à-dire sociales, et internes, c'est-à-dire notre terrain psychique, psychologique, physique, empêchent de suivre le cours de l'action que l'on croit juste. Donc on entend que les causes du syndrome d'épuisement sont de trois ordres. Le terrain psychologique qui a été bien développé ce matin, le terrain physique et des causes environnementales qui ont aussi été développées. Donc si on veut prévenir l'épuisement, le syndrome d'épuisement, burn-out, alors excusez-moi, mais j'ai mis en français, hein, c'était une thèse, il faut mettre la traduction. Il faudra donc agir à deux niveaux, sur le terrain et sur l'environnement. Donc le terrain, bon, c'est notre terrain génétique. A priori, on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, sauf que je pense que ceux qui étudient un peu ont appris qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que la génétique peut, partiellement, en tout cas l'expression des gènes peut être modifiée en fonction de l'environnement. Donc il y a quand même des choses à faire. Par exemple, certains proto-oncogènes vont ou non être stimulés en fonction de l'environnement. Le terrain, c'est aussi l'hygiène de vie. Et là, c'est mon domaine. Si on veut faire de la prévention, il faut agir pour favoriser l'adaptation au stress, donc en prévenant notamment les carences nutritionnelles et en respectant les rythmes biologiques de veille et de repos. Et si on veut traiter les effets pathogènes du stress, il y aura aussi à intervenir au niveau de l'alimentation pour répondre à la résistance. À l'alimentation à l'alimentation qui est induite par le stress et en essayant de resynchroniser les rythmes biologiques. Ça, c'est le premier niveau d'action. Et l'autre niveau, c'est l'environnement, le soutien social et familial, donc affectif, et l'organisation du travail. Alors, l'organisation du travail, je vous en parlerai, je pense pas, parce que le temps est limité et bon. Il y a peut-être quelques psychologues qui travaillent dans ce domaine, je ne sais pas, mais en tout cas pour les médicaux et les paramédicaux, je pense que c'est très difficile d'agir à ce niveau-là. C'est des équipes spécialisées, Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, c'est facile d'avoir des renseignements. Voilà, donc la clinique du burn-out, il y a trois dimensions caractéristiques qui sont l'épuisement émotionnel et physique, la dépersonnalisation et le cynisme et l'inefficacité professionnelle. Je vais vous en dire un peu plus parce que j'ai dans le petit groupe, là, à la table ronde, j'ai dit ce matin que j'avais une collègue chez qui j'avais repéré un début de burn-out et j'en ai parlé. Et elle avait déjà des projets avant de me rencontrer, mais je pense que ça l'a aidée à changer de cap. Et c'était vital et ça rentrait tout à fait dans ces trois caractéristiques. Et donc, quand on les repère chez soi-même, ce n'est pas toujours évident, ou dans notre entourage, hein, c'est bien de les connaître précisément. Donc l'épuisement émotionnel, il renvoie à l'appauvrissement des ressources du sujet. La personne est vidée nerveusement et donc elle n'a plus d'entrain. Elle n'est plus motivée par son travail qui devient une vraie corvée. Et ça s'accompagne de frustration, tu as parlé de tension. L'individu ne réalisant plus ce qu'il effectuait auparavant. Cette dimension est principalement liée au stress et parfois aussi à une dépression qui vient compliquer l'état. Et il est perçu comme ayant un rôle central dans le processus de syndrome d'épuisement. Et en général, c'est la première étape. Vient ensuite la deuxième étape qu'on appelle dépersonnalisation, qui n'a rien à voir avec le trouble dissociatif psychiatrique. Il s'agit d'une composante interpersonnelle du syndrome d'épuisement. C'est le développement d'attitudes détachées, négative, cynique, principalement dans le contexte du travail, avec une déshumanisation de la relation à l'autre, qui peut aller jusqu'à la perception des personnes comme des adversaires, des objets, voire même jusqu'à la maltraitance. Et la troisième étape, c'est l'inefficacité professionnelle. Alors, elles peuvent se chevaucher, hein, c'est pas toujours clairement chronologique. Et elle représente la dimension d'auto-évaluation du syndrome d'épuisement, c'est-à-dire que les gens ont le sentiment d'une incompétence professionnelle, d'une manque de réalisation personnelle dans le travail. Et ça s'accompagne d'une diminution de l'estime de soi, d'un sentiment d'auto-efficacité. Et le sujet, finalement, est convaincu de son inaptitude à répondre aux attentes de son entourage. Donc, quand on approfondit un petit peu les causes du syndrome d'épuisement, on peut identifier les lois bibliques potentiellement intéressantes. Il s'agit des lois sur le sabbat, et les périodes de repos, le travail, l'activité. C'est une analyse que j'ai faite surtout à la lumière de la chronobiologie. Donc on va y revenir parce que j'ai fait des découvertes que j'ai trouvées vraiment passionnantes. C'est les lois sur l'alimentation, hein, puisque le stress est un épuisement organique pour commencer, hein, même s'il a des implications, des causes qui peuvent être psychiques et des implications psychiques. Pour s'adapter au stress, on puise sur des réserves physiques. Hein. Donc il faut, si on veut pouvoir mieux résister au stress, il faut éviter d'être carencé. Et si on veut soigner les conséquences, il va falloir recharger les batteries. Et enfin, c'est les lois sur la vie familiale et sociale qui intéressent la vie affective. Hein. Voilà. Donc les lois sur le sabbat et les périodes de repos. Donc vous savez que le sabbat, donc, c'est un repos tous les 7 jours. Hein. C'est une loi qui a été donnée, une loi dès la création, hein, puisque Dieu lui-même se repose de ses œuvres. Hein. C'est le septième jour. Hein. Et les recherches en chronobiologie révèlent qu'il existe effectivement dans tout le monde vivant, depuis l'algue monocellulaire jusqu'à l'homme, des rythmes génétiquement programmés, donc qui ne sont pas dus à l'environnement, mais qui sont intrinsèques, qu'on appelle endogènes. Et il existe des rythmes de 7 jours. Hein. On sait qu'il y a des rythmes circadiens. Par exemple, pour le cortisol, on sait que vers 8 heures du matin, il est plus élevé, que vers 2-3 heures du matin, la sécrétion est quasiment nulle. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont connues. Il y a des rythmes de la température, il y a des rythmes qui intéressent la tension artérielle, etc. Et donc, les rythmes circadiens ont été les plus étudiés. Les rythmes de 7 jours ont été un peu moins étudiés, mais il y a des gens qui sont vraiment intéressés à ça, des gens sérieux. Il y a un médecin ici, un professeur là, qui travaille à l'Institut Rothschild, hein, que j'ai rencontré à cette occasion, et c'est vraiment des gens passionnants et sérieux, c'est pas des charlots, quoi. Et on note notamment chez les mammifères et l'homme un rythme septénaire du cortisol, qui est l'hormone du stress chronique. Hein. Et ce qu'on peut déduire des recherches qui ont été faites, c'est que si on ne respecte pas le repos du septième jour, on arrive rapidement à un état d'épuisement. Donc il y a besoin de se reposer un jour sur sept, on va y revenir. Il y a une autre chose que j'ai trouvée aussi intéressante, parce que quand j'ai fait cette étude, je ne cherchais pas forcément à prouver quelque chose, je posais vraiment la question. Et par exemple, ça, je ne l'ai pas du tout anticipé et c'était vraiment une surprise. Et il y a une autre chose qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est quand on étudie les rythmes scolaires, corrélés au rythme biologique, on a pu mettre en évidence une baisse des capacités physiques et intellectuelles à deux périodes de l'année en particulier, fin février, début mars et fin octobre, début novembre. Et cette baisse, elle dure à peu près 7 jours. Et 7 jours, c'est le temps qu'il faut pour resynchroniser les rythmes biologiques quand ils se désynchronisent, parce qu'il y a une synchronisation des rythmes entre eux. Et par exemple, si vous faites un voyage avec un décalage horaire de plus de 6 heures, vous allez désynchroniser tous vos rythmes biologiques et il faut à peu près 3 semaines pour les resynchroniser tous. Mais le cortisol, par exemple, il faut à peu près 7 jours pour qu'il retrouve son rythme normal. Alors après, il y a des gens qui l'encaissent bien et d'autres pas. Mais bon, voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Et alors, j'ai eu la surprise de voir que les fêtes bibliques des tabernacles, c'est-à-dire Soukhot, hein, a lieu fin octobre, début novembre en général, hein, et celle de Pâques, généralement en mars. Et la Bible demande qu'on se repose 7 jours à ce moment-là. Voilà. Donc, cette analyse était surprenante et pas anticipée. En ce qui concerne les lois relatives à la nutrition, les lois créationnelles donnent une alimentation, vous vous rappelez, à base. Ah oui, j'ai mon souffleur, heureusement. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est ce que m'avait dit ce professeur Imbert. Je l'ai lu après, que dans l'histoire, hein, plusieurs fois, on a essayé de supprimer ces rythmes, ces calendriers de 7 jours avec le week-end, notamment à la Révolution française, volontairement dans le but de se détacher du religieux et en URSS, hein, sous Staline en particulier. Et donc, ça n'a pas marché. C'est-à-dire les gens, à la Révolution française, on a voulu faire une semaine de 10 jours et les gens étaient épuisés justement parce qu'il n'y avait pas cette pause au septième jour. Et donc on a dû abandonner très rapidement. Et en URSS, ils ont fait des semaines de 5 jours, donc ça semblait plus cool. Sauf que 5 jours, les gens n'étaient pas assez fatigués, donc finalement ils travaillaient. Et du coup, ça va. Et au bout de 11 ans, je crois à peu près, ça a été une vraie catastrophe, ils sont revenus aux semaines de 7 jours. Et donc ce qui a été déduit de ça, c'est que c'est pas. Parce que ce qui était supposé, c'est que ce rythme de 7 jours, peut-être même du cortisol, était lié à l'environnement, au fait qu'on avait un rythme de 7 jours, qu'on se repose le week-end. Et en fait, non, on pense que c'est parce qu'il y a un rythme endogène de 7 jours qu'on a des semaines de 7 jours.
Donc on n'a pas besoin des grandes vacances. On va être sucrés.
Peut-être pas sous la forme où on les a, en tout cas. Et là, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que j'espère qu'il n'y a pas de prof ici. J'aime mettre beaucoup de moins d'ados.
C'est intéressant, en tout cas, de s'arrêter tous les 7 jours.
Oui, mais je vais le reprendre après dans la prévention. Voilà, donc si on vient à la... On en déduira ce qu'on doit en faire, enfin vous le devinez après, mais voilà. En ce qui concerne la nutrition, je ne sais pas si vous vous souvenez le texte, ah ouais, ce n'est pas une Bible, il n'y a que le Nouveau Testament là. Le texte de la Genèse, hein, c'est Genèse 1:28, je crois, ou 1:29, je ne sais plus, qui dit que donc, Dieu donne à l'homme les fruits et l'herbe portant semence. Il n'a pas dit d'ailleurs que c'était la semence, entre parenthèses. Donc une alimentation à base de fruits, de légumes et on va dire de verdure tendre, qui probablement au départ était consommée cuite. Je ne sais pas si vous avez la compote de pommes dans le jardin d'Éden. Vu le climat, à mon avis, ils n'avaient pas trop besoin du feu encore. Et voilà. Et c'est par la suite, hein, avec Noé, donc, que Dieu va autoriser la consommation de viande saignée. Est-ce que dans le Sinaï, Dieu va encore préciser ses lois en distinguant des animaux purs et impurs. Et donc la cuisson et l'agriculture ont permis l'ajout de céréales et de légumineuses au régime. Mais au départ, ce qui est proposé, c'est fruits, légumes et verdures. Et du point de vue, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était la physiologie, hein, c'est comment ne pas être carencé ou comment combler les carences ou répondre à la résistance à la nutrition, puisque je sais qu'ici, il y a plusieurs personnes qui travaillent en réa, anesthésie. Donc, vous avez peut-être vu ces études, hein, par exemple, chez les grands brûlés, on voit une vraie résistance à la nutrition. C'est-à-dire, on les nourrit, on passe les perfs, le catabolisme augmente et l'anabolisme diminue. C'est-à-dire, ils ne construisent pas leur corps, ils consomment leurs réserves, leurs muscles, en particulier les muscles. Et donc, il y a une fonte tissulaire rapide. Donc, chez les gens qui sont en burn-out professionnel, on voit rarement des gens cachectiques. Mais il y a quand même une fonte de la masse maigre et une augmentation de la masse grasse. Et c'est avec une résistance à l'insuline, donc une hyperinsulinémie et une hyperglycémie, avec tout le cortège de pathologies qui vont avec. Et si vous regardez cancer et hyperinsulinémie ou syndrome métabolique, bien c'est discuté celui-là. Donc on va dire hyperinsulinémie sur PubMed, vous allez trouver 3000 articles. Hein. C'est l'Alzheimer, actuellement on parle de diabète de type 3. On est en train de se rendre compte que c'est probablement lié au syndrome métabolique. Hein. Enfin en tout cas à l'hyperinsulinémie, avec stimulation des facteurs de croissance, stimulation de production de molécules inflammatoires. Et donc développement de pathologies graves, cancer, maladies auto-immunes, diabète, enfin toutes les pathologies dites de civilisation. Et donc le stress est, en plus de notre alimentation dont on reparlera absolument malsaine, le stress est un facteur majeur de ces pathologies. Donc moi je me place du point de vue de la physiologie et les études aussi bien en paléo-anthropologie, donc parce qu'on dit le cancer ça a toujours existé, le stress ça a toujours existé, la physiologie digestive, l'épidémiologie, les études en laboratoire, les études cliniques sont toutes en faveur d'un régime optimal à base de végétaux crus. C'est pas dit comme ça, mais si on conclut sur ces recherches, on se rend compte que ce qui est optimal pour la physiologie humaine, c'est des végétaux crus, pas répartis n'importe comment. C'est 75% d'hydrates de carbone. Et en période de stress, notamment dans les stress physiologiques, pas physiologiques, mais dans les pathologies graves, mais aussi dans le stress burn-out, par exemple, ou qui génère le burn-out, on s'est rendu compte que si on augmente les hydrates de carbone à 75% de la ration calorique, ça permet l'usage du glucose plutôt que des acides gras. Et donc, ça évite. Et des acides aminés, ce qui évite la fonte de la masse maigre et permet de stabiliser le poids et de refaire le plein. Parce que les gens s'épuisent, se vident et continuent à se vider alors à un moment où il faudrait recharger les batteries. Donc 75% d'hydrates de carbone, 10% de protéines. On s'est rendu compte que si on dépasse les 12%, on favorise le développement des cellules tumorales s'il y en a. Et en dessous de 5%, en dessous de 6%, on va dire, on n'a plus assez d'acides aminés pour renouveler et pour stimuler nos enzymes. Voilà, donc 75% d'hydrates de carbone, 10% de protéines et 10 à 15% de lipides. Vous pouvez regarder même les bouquins de physiologie, moi je ne sais pas quelle est la référence aujourd'hui, mais moi c'était le Thomson Wright. J'étais étonnée de ce que j'ai lu. Hein. C'est vraiment ce qui ressort, c'est ça. C'est vraiment les proportions idéales qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on nous apprend. Hein. Et dans Thomson Wright, il dit même quelque chose qui m'a surprise. Il dit, on dit que les protéines première catégorie, c'est celle issue des produits animaux, et les protéines seconde catégorie, qui sont moins bien assimilées, viennent des végétaux. Il dit complètement faux. C'est un débat complètement faux. Et il dit, il y a même des exemples dans l'histoire. Nabucodonosor, pendant plusieurs années, n'a mangé que de l'herbe. Apparemment, ça lui a réussi, il a même guéri de ses troubles psychiatriques. Donc, j'étais étonnée de trouver ça dans un ouvrage de référence de physiologie. J'ai dit, waouh, c'était amusant. Voilà, et donc cette répartition 75%, 10% de protéines et 15% de lipides, ça correspond précisément à ce qu'avait apporté un menu composé abondamment de fruits qui apportent les hydrates de carbone, de légumes qui vont apporter surtout les minéraux, de graines oléagineuses, d'avocats, de noix, d'amandes qui vont apporter les acides gras et de verdure qui vont apporter les protéines. Donc ça correspond au régime de la Genèse, hein, originel. Notre régime occidental moderne, vous connaissez, c'est sucre à index glycémique élevé, c'est-à-dire que ce n'est pas les fruits, hein, les fruits ont un sucre ont un index glycémique bas, hein, c'est une assimilation lente du sucre. Il y a des fibres, il y a de l'eau, ça diminue. Nous, on mange que des sucres concentrés, hein, même quand il est roux, c'est sucre rapide, rapide, pomme de terre, c'est sucre rapide, farine blanche, c'est sucre rapide, riz blanc, c'est sucre rapide. Donc on fait de la glycémie et l'insuline, plus des graisses trans, hein, on mange des graisses cuites, en particulier des graisses animales, mais aussi des fritures, des graisses hydrogénées, et on mange beaucoup de protéines, beaucoup trop de protéines. D'abord on mange de la viande tous les jours quasiment, ou des produits animaux, des laitages, etc. Et en plus, on mange plein de céréales, éventuellement des légumineuses, donc on a des rations protéiques qui atteignent largement les 16% quand ce n'est pas 20%. Et en plus, ce type d'alimentation génère des déchets métaboliques acidifiants qui potentialisent les effets du stress sur le système nerveux. Donc un régime comme ça, non seulement ça entraîne une moins bonne adaptation au stress parce qu'il est archi carencé. Donc il n'est pas carencé en calories en général, il y en a même un peu trop. Mais par contre, pour ce qui est nutritionnellement actif, c'est très carencé. Donc il y a une moins bonne adaptation au stress, des carences et une aggravation de la fameuse insulino-résistante induite par le stress chronique. Et donc ça augmente les pathologies dites de civilisation. Voilà, ensuite les lois relatives à la vie affective. J'essaie de concentrer. On peut dire que la loi créationnelle institue un couple monogame. Dieu, il n'a pas donné trois Ève, il n'en a donné qu'une, Adam. Ah oui, un homme et une femme. Ouais. Excusez-moi, aujourd'hui, il faut le préciser. Donc, monogame, hétérosexuel, a priori uni pour toujours. Hein. C'est pas quand on a marre, je t'en donnerai un autre ou une autre. La relation sexuelle est assimilée au mariage, donc elle ne peut être envisagée a priori qu'avec un partenaire unique. Est-ce que les lois du Sinaï vont reprendre, hein, en condamnant l'adultère, en assimilant les relations sexuelles hors mariage à la prostitution? Mais elle tolère par contre la polygamie et le divorce, hein, sous certaines conditions. Alors j'ai trouvé une étude, beaucoup de choses, mais j'ai retenu celle-ci, une étude sur l'ocytocine, hein, qui a été faite par un professeur norvégien ou suédois, je ne sais plus, une femme, Yvnes Moberg. Et l'hormone, c'est vraiment l'ocytocine, c'est l'hormone anti-stress par excellence. C'est-à-dire il y en a une qui stimule l'orthosympathique et l'autre qui stimule le parasympathique, qui va avoir l'effet exactement inverse. Hein. Les hormones du stress, elles bloquent tout le système digestif, par exemple. Et l'ocytocine, au contraire, on assimile, on digère, on sécrète des enzymes, etc. Et donc, c'est aussi l'hormone de l'attachement, dont Georges a beaucoup parlé ce matin. C'est pour ça que quand on accouche, on sécrète plein d'ocytocine, et que quand on allaite nos enfants, on sécrète plein d'ocytocine, et ça favorise le lien mère-enfant. Il y a plein d'autres éléments, hein. Je suis pas en train de vous dire que tout passe par là. Hein. Mais voilà, c'est un élément quand même.
On est frustrés en tant qu'homme.
Effectivement, les femmes résistent quand même un peu mieux au stress, semble-t-il, grâce à l'ocytocine, pas parce qu'elles en sécrètent plus, mais parce que les œstrogènes favorisent l'action de l'ocytocine. Et donc les hommes, ils sont moins bien lotis de ce côté-là. Mais il y a un truc qui peut les aider, je vais vous donner le secret tout de suite, même si on en reparlera, c'est les massages. Le massage fait sécréter de l'ocytocine et le sport aussi. Mais le massage, c'est radical, ça marche super bien.
Il me semblait aussi la relation sexuelle.
Oui, l'orgasme, dans certaines conditions. Alors là, je ne l'ai pas développé, mais... Voilà, alors les célibataires, vous allez voir une kiné, vous faites masser. Non, mais c'est intéressant, dans la relation sexuelle. Alors, c'est ambigu parce qu'en réalité, je ne le retrouve pas là et j'ai essayé de m'en souvenir de mémoire. Hein. Les massages, voilà. Parce qu'elle parle justement de la relation sexuelle hein, et je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Bon, je ne le retrouve pas. Mais elle dit que une relation sexuelle qui est insécure, donc qui se fait dans une relation qui n'est pas durable, ou qui est insécurisante, ou dans laquelle il y a de la violence, ou de l'agressivité, de la douleur, au contraire, ça génère du cortisol. Et il peut y avoir au moment de l'orgasme une sécrétion d'ocytocine, mais dans la mémoire après, le souvenir, il est marqué, l'ocytocine, elle fixe dans la mémoire hein, le souvenir de l'événement. Et donc elle dit, c'est pour ça, pour elle pense que c'est en partie pour ça, et pas seulement à cause du risque de grossesse, qu'on conseillait avant la pilule aux jeunes filles d'éviter d'avoir des rapports hors mariage. Hein, parce qu'un rapport qui a lieu sous le signe de l'ocytocine, on va dire, c'est un rapport qui est marqué à vie. Et donc, c'est des gens, on l'a observé même sur des rats, sur des souris. Enfin, la femelle, elle va reconnaître le mâle avec lequel elle a eu ce rapport. Et donc, il y a un lien qui se crée, qui est quasi indéfectible dans la mémoire. Bon, on est des êtres humains. Le Seigneur peut guérir beaucoup de choses. Là encore, on ne va pas mettre tout dans des boîtes. Mais c'est quand même intéressant. De voir qu'il peut y avoir une base physiologique à la fidélité. C'est ça qu'elle conclut, cette femme qui n'est pas du tout chrétienne. Hein. J'ai lu son bouquin, je pense qu'elle est même plutôt un peu dans la mouvance Nouvel Âge. Et voilà, c'est une étude scientifique sérieuse. Mais elle dit qu'il y a peut-être une base physiologique au tabou de l'infidélité. Et c'est intéressant de le savoir. Et, parce que si ce lien reste, c'est difficile de créer un lien avec d'autres personnes par la suite. Hein. Donc c'est une réalité. Alors à notre époque où justement il y a une grande liberté dans ce domaine hein, des relations sexuelles, ça favorise aussi le stress. Ça favorise le stress et le manque d'attachement dont tu as bien parlé ce matin. Enfin, quand tu es arrivée, j'ai vu que tu parlais de ça, c'est très intéressant. Et les études épidémiologiques, sur lesquelles je suis toujours prudent parce que je pense que l'épidémiologie n'est pas une science exacte, c'est un complément de science, mais elles semblent confirmer ces observations hein, en montrant que l'univers affectif des malades est peut-être le facteur de guérison le plus déterminant et le plus universel, où le mariage et la fidélité sont apparus comme des choix anti-stress favorables à la santé. Même dans les problèmes cardiaques, après des infarctus, on a remarqué que les hommes mariés, depuis plus de 20 ans, je crois, ont un taux de guérison, je crois, à 80% supérieur aux autres. Enfin, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment... pour les femmes, c'est moins évident, parce qu'elles sont déjà au bénéfice de l'ocytocine, et il semblerait aussi que les femmes retirent moins du mariage que les hommes. Avis à ces messieurs. Je vous laisse, je ne prolonge pas. Elles ont été faites par des femmes, c'est vrai. Non, non, il y en a une, elle a été faite par un couple. Non, non. Voilà. Donc, bon, on pourrait discuter, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais en dire trois mots sur la possible actualité à l'application de telle loi. Hein. Est-ce qu'on va tous manger le régime de la Genèse? Est-ce qu'on peut tous vraiment se reposer le septième jour, etc., etc. Il semblerait que ce soit idéal, et j'ai trouvé ça touchant quand même, que finalement ces lois, c'est des lois physiologiques, c'est pas des lois au sens du devoir, d'une loi morale. qui dit tu dois le faire. Je ne suis pas là en train de vous dire remettez-vous sous la loi, c'est bon. D'ailleurs, ce n'est pas la loi du Sinaï, c'est la création. Et la création, c'est des lois de la physiologie. Si vous dites moi je suis libre, je vais pouvoir sauter du 10e étage, la loi de la gravité, c'est une loi créationnelle, vous n'y échapperez pas, vous vous scratcherez. il y a pas de. Voilà, donc on n'est pas en train de dire il faut se remettre sous la loi, il faut être privé de liberté. La vraie liberté, c'est d'accepter la création de Dieu comme il l'a faite. Hein. Et bon, c'est pour ça que je prends l'exemple un petit peu caricatural de sauter du 10e étage. Enfin, ou si vous dites, moi, je veux pouvoir me passer d'oxygène, ça ne va pas durer très longtemps, hein. Quelques minutes. Voilà, donc c'est des réalités. Et si on veut échapper à la physiologie, on en paye le prix. Alors, on peut le payer très cher si on est en hypoxie. On le payera peut-être de façon moins évidente si on se gave de McDo ou de fast-food, ou pardon, si vous mangez au fast-food tous les repas. Mais il y a un prix, quoi. Et donc, j'ai trouvé que c'était touchant de voir que la création de Dieu, elle est toujours... Je me suis dit, voilà, il y a des animaux carnivores. Au début, ils étaient tous herbivores. Peut-être que nous aussi, on a évolué dans notre physiologie et qu'on a d'autres besoins. C'est pas si évident. C'est pas si évident. Donc, on a des capacités d'adaptation... ça serait trop long de le développer là, mais c'est pas dit que ce soit l'alimentation idéale, celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et je me dis, voilà, je pense que c'est toujours valable. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger à les appliquer. Non seulement il n'y a pas de danger, mais il y a même un bénéfice. Mais dans les faits, il y a ce qu'on appelle la raison sociale, hein, nos modes de vie, des résistances psychologiques qui peuvent faire obstacle à leur mise en œuvre. Et ça peut poser problème justement dans les situations de burn-out. Donc, j'ai proposé un petit protocole de prévention et de traitement sur ces bases. Donc, je vous encourage, et je vous encourage à en faire part à vos patients, à faire le choix d'une journée de repos tous les 7 jours. Ce n'est pas obligé que ce soit le samedi. C'est-à-dire, après, si vous choisissez le vendredi, votre organisme il va se synchroniser sur le jour que vous aurez choisi. Donc, si c'est le vendredi, le mercredi, le lundi, vous choisissez le jour. Après, je sais qu'il y en a qui ont des gardes, etc. Bon, bah, si on est de garde, on est de garde. On essaye d'avoir un jour de repos le plus proche possible de celui qu'on a sauté. Mais dans la mesure du possible, et chaque fois qu'on le peut, on fait faire le choix d'une vraie journée de repos, qui soit à peu près toujours le même, pour que le rythme du cortisol puisse se synchroniser dessus, et favoriser la récupération face au stress. Et ce repos, il doit pouvoir être physique et psychologique dans la mesure du possible. Et il y a une chose sur laquelle je veux alerter, c'est ce qu'on appelle les laisses électroniques, hein, le téléphone, les emails, les ordinateurs, qui sont de réels obstacles à ce repos. Et dans les cas cliniques que j'ai présentés, il y a une femme, c'est à cause de ça qu'elle a décompensé, c'est évident. C'est-à-dire les week-ends, elle travaillait le week-end, elle était pendue. L'email, il faut y répondre tout de suite, le téléphone, il est toujours allumé, partout. Donc le jour de repos, si c'est possible, on les débranche. Et je vous assure, c'est une forme de jeûne, on parle souvent du jeûne... Il y a des appels au jeûne dans la Bible. C'est un réel bienfait, vraiment. Donc, je me dis, attention aux laisses électroniques. Bon, parallèlement, je ne le développerai pas, mais les recherches montrent qu'il y a aussi un bénéfice. C'est-à-dire qu'on doit se reposer le septième jour, mais on est fait pour être actif les 6 autres jours. Et on peut le démontrer physiologiquement. Voilà. Donc, activité physique et intellectuelle. L'activité intellectuelle consomme aussi de l'énergie. L'activité physique répare certains effets du stress, notamment il y a un raccourcissement des télomères, donc un vieillissement prématuré par blocage d'une enzyme, hein, la télomérase dans le stress. L'activité physique relance l'activité de la télomérase et il y a un rajeunissement cellulaire réel. Il y a des atteintes hippocampiques, hein, tu as parlé je crois des troubles de la concentration, de la mémoire, hein, qui sont liés à des atteintes centrales liées à cause du stress qui peuvent récupérer. Avec les massages, avec l'activité physique. Donc, voilà, c'est pas, je vous dis pas, maintenant mettez-vous au chômage, mais suivre un certain rythme. Après, au niveau alimentaire, il y en a qui le font, hein, j'en connais, hein, qui mangent fruits, légumes, tout cru et tout. Ils s'en portent très bien. Bon, il faut pouvoir le faire. En tout cas, il faut préconiser une alimentation pauvre en aliments index glycémique élevé, c'est-à-dire tous les hydrates de carbone raffinés, en graisse trans, c'est-à-dire les fritures, les graisses cuisses, les graisses hydrogénées, vous allez enlever beaucoup de choses, modérées en apport protéique, qu'il soit d'origine animale ou végétale. Et par contre, à l'opposé, bien sûr, on encouragera une alimentation riche en fruits, en légumes, en verdure, en noix, majoritairement crues.
Bio.
Ouais. Alors, si on parle là-dessus, il faut me donner au moins une demi-heure de plus.
Mais c'est pour manger les fruits non bio, c'est pas il vaut mieux acheter en France.
Disons que c'est vrai que, en tout cas pour les verdures et certains fruits comme les pommes par exemple qui sont traités 32 fois, c'est vrai qu'il y a, voilà, et la verdure qui capte hein, tous les poisons. Je vous encourage, même si votre budget ne permet pas de manger tout bio, il y a ces choses-là, ça serait bien d'éviter que ce soit trop chimique parce qu'il y a vraiment des résidus qui sont retrouvés dans l'organisme et on s'empoisonne. Ouais. Les fruits, les légumes, tout ce qui est riche en fibres.
D'accord.
Ouais. Il y a des études qui ont montré que si on est à peu près à 75% de cru dans notre alimentation, on n'a pas les effets mauvais, entre guillemets, du cuit. Hein. D'abord parce qu'on va avoir un apport vitaminique et minéral suffisant. Et il n'y a pas l'hyperleucocytose postprandiale, etc. Enfin bon. On n'a pas le temps de le développer, mais mettez beaucoup, 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 commencez tous les repas par des crudités ou des fruits. Vous pouvez manger des fruits en entrée, entre les repas. Et gavez-vous de fruits, de légumes, de verdures. Et après, un petit peu de produits animaux si vous y tenez, un petit peu de céréales et de légumineuses, mais c'est des petites quantités. Et dans les situations de carence ou de résistance à la nutrition, c'est-à-dire où on est déjà en burn-out, il faut concentrer. Et là, c'est jus de fruits et de légumes frais. Vous achetez un extracteur de jus et tous les jours. Ça a été démontré, hein, ça diminue les risques de 76% le risque de maladie d'Alzheimer. Moi, quand je lis ça, je me dis ça vaut la peine de se faire son petit jus au moins 4 fois par semaine. Quoi. Et il y a un produit miracle, je trouve, parce que dans la résistance à la nutrition, notamment, il y a une incapacité à digérer les protéines complexes. Donc, on le voit hein, dans les services de réa. Donc là, on donne des hydrolysa, machin. Hein. Mais bon, à la maison, Renutri, le bof. Hein. Et donc, c'est la spiruline. C'est une petite algue. Spiruline. C'est une petite algue d'eau douce hein, qui est beaucoup utilisée maintenant dans les pays en voie de développement, dans les programmes de renutrition. C'est miraculeux. L'effet est extraordinaire, vraiment. Et donc, c'est des acides aminés quasiment sous forme libre, équilibrés. Donc, si vous n'avez pas mangé de viande, vous ne serez pas carencé, vous aurez tout ce qu'il faut. Il en faut 2 ou 3 cuillères à café par jour. Bon, pour chez les gens dénutris, vous pouvez aller jusqu'à 1 cuillère ou 2 à soupe. Hein. Il faut recharger, là, vraiment. Et en plus, ça a un effet sur les neuromédiateurs parce qu'il y a les apports en acides aminés. C'est vraiment un produit génial. Donc, en thérapie, jus de fruits et légumes frais et spiruline, en plus du reste. Voilà, et il faudra bien sûr favoriser des relations sociales gratifiantes. Donc, Daniel va en parler tout à l'heure. On peut dire, pour le tout venant, on va dire activité associative, amitié, soutien thérapeutique, psychologique bien sûr, mais ça c'est la partie de Daniel, c'est pour ça que je ne développe pas. Des consultations en conseil conjugal s'il y a besoin, hein, parce que divorcer ça peut paraître la solution, mais ça l'est pas rarement. Voilà. Et donc, des mesures associées à visée préventive ou thérapeutique. Donc, une des mesures majeures, c'est l'arrêt de travail. Et c'est minimum 3 semaines pour les gens qui ne sont pas dans des stades avancés. En dessous, ça ne sert à rien.
L'importance de la mastication, il faut souligner.
Ouais, ça, ouais, dans la digestion. Ouais, tout à fait.
Faciliter vraiment la voie physiologique de la transformation d'aliments en bouche.
Qui fait une prédigestion et du coup une meilleure assimilation. Tout à fait.
C'est traité bien dans l'estomac et l'intestin peut traiter.
Dans notre monde stressé, on avale tout entier. C'est sûr que c'est important de le rappeler.
C'est important de tout simplifier par la prière parce que les pesticides systémiques, malheureusement, rentrent dans les produits qui pénètrent les fruits des légumes.
Et on les retrouve.
Absolument les éplucher entre autres. Systématiquement.
non bio, il y a des taches sous la peau.
Ah oui, c'est une horreur. La pomme, il faut l'acheter bio. Hein. Je vous le dis. Ouais. Non, c'est juste. Donc, l'arrêt de travail, c'est minimum 3 semaines. Et si on ne veut pas le faire, et si les gens résistent, vous leur dites, je vous revois dans 1 an, c'est 1 an d'arrêt de travail. Quoi, hein. C'est longue maladie. Le burn-out, il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui ne pourront jamais reprendre leur travail. Il y en a qui vont le reprendre uniquement en mi-temps thérapeutique. Ça rigole pas, quoi. C'est vraiment... Donc, quand on voit quelqu'un qui est en début de burn-out, c'est arrêt de travail. Et c'est 3 semaines minimum pour avoir une efficacité. En dessous, une semaine, ça ne sert à rien. 3 jours, c'est même pas la peine. Il peut retourner travailler tout de suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment un élément... Mais ça ne fait pas tout. Mais c'est un élément essentiel. Voilà, donc on peut donner donc, des conseils sur les rythmes biologiques, des conseils alimentaires. Voilà, après, les activités artistiques, les bains de soleil... des compléments micronutritionnels, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. On pourrait parler des heures. Hein. Je vous ai donné ce qui me semblait prioritaire. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas remis sous la loi, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être libre. Mais je crois que dans la soumission à la pensée de Dieu, il y a la vraie liberté. Et c'est un acte de foi. De faire confiance que ce que Dieu a donné est bon. Et ça fait partie des éléments qui nous protègent. Et je voulais juste lire, avant de passer la parole à Daniel, Romains 1:20. Donc c'est la traduction parole vivante. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait les questions maintenant ou est-ce qu'on laisse la parole à Daniel, puis après on fait des questions groupées? Je ne sais pas, cher Azad ou...
Est-ce qu'il y a des questions éventuellement?
Il y a peut-être 2-3 questions, il vaut mieux les faire directement.
D'accord. Attends, on va débrancher le machin.
La journée de repos. Qu'est-ce que vous appelez une journée de repos?
Ah oui.
Repos dans la tête.
Qu'est-ce que c'est le repos? Ouais, non, c'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. Il y a d'autres questions.
Surtout qu'on ne se repose pas tous.
Donc déjà, on a dit qu'il fallait que ce soit toujours le même, hein, pour que le rythme du cortisol se synchronise dessus. Et le but, c'est de se soustraire aux contraintes habituelles et aux fatigues inutiles. Donc j'ai donné quelques exemples, hein, les déplacements longs en voiture ou autres, comme j'ai fait aujourd'hui. Hein, là, je ne respecte pas du tout ce que j'ai dit, c'est le samedi, moi, mon jour de repos. Faire ses courses au supermarché, avoir des activités intensives, même sportives. Enfin, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. éviter les émotions violentes, comme certains films ou une formation télévisée. Ce n'est peut-être pas la peine de regarder le journal télé où il y a le mec qui s'est fait sauter sur une bombe. Voilà. Les grands préparatifs culinaires pour beaucoup de monde. Voilà, c'est les choses qui sont à éviter. Éviter, si on peut, si on y arrive, d'ouvrir sa boîte mail. Mais essayez, hein. J'aimerais bien que vous essayiez. Et débranchez votre portable, sauf si c'est le cordon ombilical avec vos enfants. Bon. Voilà. Voilà, donc essayez aller faire un petit pique-nique en famille, prendre un bon bouquin... faire un peu de sport si on veut, mais doux, pas on va dépasser ses performances. Voilà, et pas se mettre des contraintes Voilà, s'il y a le petit marché à côté de chez vous et que vous adorez aller au marché, allez au marché. Mais n'allez pas au supermarché, faire 3 heures de queue, faire 3 km. Parce que quand vous avez traversé tout Carrefour, vous avez aller-retour, je pense qu'on a déjà fait un kilomètre, avec 10 000 informations à la minute, on est surinformé, on est sursollicité. Donc c'est diminuer les sollicitations. C'est pour ça que je parle de l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, c'est un écran lumineux. Rien que ça, déjà, on est sursollicité. Donc c'est faire une vraie pause. Et si votre patron, il dit, vous finirez ce week-end votre machin, si vous avez 2 jours tout le week-end, vous pouvez choisir un des 2 jours pour finir, mais si vous avez 15 jours de repos, c'est niette, quoi. C'est faire la différence entre la véritable urgence et ce qu'on vous impose, hein, qui n'est pas forcément l'urgence. Hein. Voilà.
voilà. Bon, apparemment, si on fait tout le contraire, on va arriver forcément à un moment donné au burn-out.
Ouais.
C'est quoi ? C'est les dire à son médecin traitant de nous mettre en arrêt 3 semaines.
Alors. Si on reste, il y a une autre chose qui est intéressante. J'ai parlé des rythmes des vacances. Hein. Idéalement, dans les rythmes biologiques, il faudrait prendre à peu près 1 semaine tous les 2 mois. En tout cas, ça serait bien de prendre 1 semaine ou 15 jours aux 2 phases creuses. Ça recharge vraiment l'organisme. Parce que dans notre univers, dans notre monde, on nous dit vous êtes des tout-puissants. Hein. C'est vrai, c'est vraiment ce truc de je vais y arriver. Surtout quand on est jeune, tout marche bien. Là, nos enzymes et tout, ça marche à bloc, quoi. Nos cellules, elles sont bien, donc on les épuise, mais on peut le faire, on peut le faire. Et on a l'impression qu'on pourra le faire toute notre vie. Si on a ces temps de pause, même si le reste du temps, on a une vie très intense, il y a une véritable récupération. Donc c'est une protection aussi. Donc les vacances de Toussaint et les vacances de février ou de printemps, au choix, vous prenez 15 jours et vous vous cassez, quoi. Ou 1 semaine, au moins 1 semaine. En tout cas, il faut 7 jours. Et vous partez en voyage, en vacances, jours de voyage non compris, 7 jours. Parce que le voyage, ce n'est pas des vacances. Voilà. Donc, c'est vous restez chez vous si vous voulez, mais alors là, vous débranchez tout, quoi, hein, parce que sinon...
J'ai remarqué souvent, par exemple, pour ceux, en général, les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle temporairement, j'ai l'impression qu'aussi le rien peut fatiguer aussi.
Oui, et puis il n'y a pas de rythme. Donc effectivement, on n'a pas de rythme, parce qu'on n'a pas de rythme. Donc en fait, et puis comme on a du temps, soi-disant, on est très sollicité souvent. Donc c'est se donner un rythme, hein, vraiment.
Parce que souvent, quand on travaille, on se dit, ah bah oui, vivement les vacances, on va se reposer. Mais quand on a besoin des deux, quand on est en vacances, quand les vacances durent trop, on a envie de repartir au travail.
C'est ce que j'ai dit, hein, on est fait pour être actif, hein, on n'est pas fait pour se reposer. Hein, on est comme à l'image de Dieu, hein, qui a... T'es actif 6 jours, entre guillemets, hein, parce que là, théologiquement, il y a beaucoup de discussions. Mais pour nous, en tout cas, dans nos rythmes biologiques, c'est confirmé. On doit être actif 6 jours, donc se faire des programmes.
Hein. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des études aussi sur l'effet de la prière par rapport au stress?
Alors... Il y a eu des études de fait, par exemple, sur l'étude, sur l'effet de la méditation des gens dans les monastères bouddhistes. Et il y a eu des études un peu similaires sur la prière. Le problème, c'est que pour moi, les prières qui a été étudiées, c'est un mode de prière qui s'apparente à la méditation, hein, des prières un peu comme des mantras, des récitations, dans des ambiances un petit peu mystiques. Et on obtient les mêmes résultats. Oui, il y a un effet sur la cohérence cardiaque, sur les rythmes... Oui, ça marche. Je ne pense pas pour nous, tel que, en tout cas, moi, je comprends la prière, que cette prière-là ait un impact sur le stress. Ce qui va avoir un impact, hein, c'est notre foi. Ça, c'est évident. Bon, là, je n'avais pas le temps de le développer, mais ce que j'ai montré en fin de travail, c'est que Jésus, il a accompli toutes ces lois. Jésus, il est notre sabbat, et il dit « Entrez dans mon repos ». Il est notre nourriture. Il a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Nourrissez-vous, demeurez en moi, nourrissez-vous de moi. Il dit, je suis l'époux, celui qui vous donne qui vous comble affectivement. Donc, la foi, c'est bien sûr, mais la foi, pas au sens simplement croire que Dieu existe, mais cet abandon, pas le lâcher prise des New Age non plus, mais c'est un abandon actif, c'est-à-dire on reste engagé dans notre appel, mais on est abandonné au Seigneur. C'est évident que c'est une source de repos magnifique. Mais bon, si je ne l'ai pas beaucoup dit, c'est aussi parce que il y a une réalité qui est quand même celle du 21e siècle, c'est qu'on a des modes de vie stressants. Et que même si on a une foi magnifique, réelle, qu'on s'appuie profondément sur le Seigneur, on peut quand même arriver à des situations de burn-out parce qu'on est sursollicité. C'est une réalité. Et on demande à notre organisme des choses pour lesquelles il n'est pas fait aujourd'hui. C'est évident. On pourrait parler de la dyslexie, de toutes ces pathologies des enfants hyperactifs. Et, enfin, la dyslexie, c'est autre chose. Mais les enfants hyperactifs, par exemple, c'est pléthore. On en parle de plus en plus. Pour moi, c'est le pré-burn-out de l'enfant. Ils sont dans un monde hyper, où ils sont hyper sollicités en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est pour ça que je ne fais pas la guerre à l'ordinateur. J'en ai un, je l'utilise aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Et il ne s'agit pas d'être bêtement contre et d'être passéiste et tout ce qui était avant était mieux. C'est stupide. Il faut savoir l'utiliser, mais il ne faut pas s'enchaîner. Et c'est des outils qui sont extrêmement stimulants. On commence à chercher un truc, on en trouve 50, on sort de là, on a passé 3 heures sur l'ordi, on a les yeux comme ça, on a eu 10 000 informations pendant ce temps, le téléphone a sonné, moi j'ai des enfants, ils sont venus me demander 3 fois un truc. On est stressé. On nous demande toujours plus, toujours plus. Et tout ce qui a été des améliorations techniques qui auraient dû nous soulager, hein, d'avoir une machine à laver, une voiture, etc., c'est pour qu'on puisse en faire plus. Et là, on a atteint un seuil. Donc, de toute façon, ça va s'effondrer hein, si on continue, parce que ça ne peut pas tenir. On a dépassé le seuil des capacités humaines. Donc, ça s'effondre. Après, la vraie réponse que Daniel va un petit peu développer, c'est répondons à notre appel. Et quand on est chrétien, la question à poser au Seigneur, c'est « Seigneur, quel est mon appel ?» Et je suis dans mon appel. Et ça répond indirectement quand même à ta question de dire « mais on nous impose des choses ». Il y a un moment, je pense, où on peut dire « c'est pas mon appel ». Alors, tu vas peut-être pas dire à ton patron « excusez-moi, mais c'est parce que le Seigneur me demande », mais je pense qu'il y a une réelle protection. J'ai donné au tout début ce témoignage de cette femme qui m'a un peu menacée de me faire des problèmes. Elle m'en a pas fait, mais j'étais prête à l'accepter. Et elle m'en aurait fait, j'aurais pas pour autant remis en question ce que j'avais fait. Je me serais pas dit « j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire ça, prier devant l'autre, etc. Et... » Et c'était interdit, je me suis jamais dit ça. Et même quand elle m'a menacée, j'étais sûre que j'avais fait ce que Dieu me demande. Et faire ce que Dieu nous demande, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Hein. Mais je pense que c'est une source de très grand apaisement et ça nous aide à faire des choix. Et on est obligé. Et parfois, même à nos patrons, il faut leur imposer nos choix. Eux, ils nous imposent les leurs, dans le respect, bien sûr, dans la soumission. Mais il y a un moment où on peut dire ça, je ne peux pas. Et en réalité, si tu es arrêté 3 semaines parce que tu es en burn-out, il va se débrouiller sans toi, il va y arriver. Donc en réalité, ça veut dire que c'est possible. Hein. Et voilà. Donc quand on est actif, soyons-le réellement, efficacement, faisons ce qui est juste, faisons le bien, mais restons à notre place aussi. Quoi. Voilà.